Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Air Dubois et c'est l'heure de l'interview avec au studio aujourd'hui Laureline Fontaine. Bonjour.
Bonjour.
Laureline Fontaine, vous êtes professeure de droit public et constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et vous êtes aussi présente pour une conférence que vous donnerez ce vendredi 21 février à 18h. Ça sera la salle communautaire de l'ESCDD à 10. Et nous avons aussi Bernadette Casté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme, Drôme Ardèche.
Diwa, Crétois, Val de Drôme.
Et aussi, donc, Nicolas Fèvre-Darcier, également membre de la Ligue des droits de l'homme.
C'est ça, bonjour tout le monde.
Bonjour à vous aussi. Donc, tous les trois, vous êtes présents pour cette soirée du 21 février, qui sera donnée à l'adresse du public, avec un titre « Sommes-nous encore en démocratie ?» Alors, cette question, Bernadette, puisque vous vous êtes associée avec Éric Le Serre pour proposer cette soirée, qu'est-ce qui vous a poussé à poser cette question ?
Eh bien, en fait, c'est une réflexion, un souci qu'a la LDH maintenant depuis quelques années et qui s'accentue récemment. Nous sommes alarmés, nous avons le sentiment qu'il y a depuis quelques années un véritable recul des libertés et des droits en France. Et que les différents gouvernements et les derniers gouvernements n'hésitent pas à violer délibérément les règles du droit lorsque ces règles du droit font obstacle à leur politique. Et voilà, donc je crois qu'on peut parler d'une certaine façon d'une dérive sécuritaire et liberticide. Et donc il nous paraissait important d'alarmer, de discuter et puis surtout de pouvoir avoir une expertise de la part de deux professeurs de droit sur cette situation qui est quand même tout à fait alarmante.
Et donc, pour cela, vous avez sollicité deux personnes, Laureline Fontaine, qui est avec nous, et Serge Slama, qui est également professeur de droit public à l'Université Grenoble-Alpes, et qui a rédigé un ouvrage intitulé « Dégradation de notre état de droit », des ouvrages que vous avez certainement lus.
Dégradation de notre état de droit, oui, tout à fait.
Et est-ce que cette constatation établie ou rédigée répond aussi ou correspond à vos inquiétudes ?
Bien oui, dans son ouvrage « La Constitution maltraitée », Laureline Fontaine étudie le fonctionnement du Conseil constitutionnel, qui est quand même un garant de nos libertés et devrait représenter un réel contre-pouvoir. Or, bon, ce qu'elle constate, si j'ai bien compris, moi je ne suis pas du tout une spécialiste du droit, c'est que c'est avant tout, ce Conseil constitutionnel est en fait avant tout une instance politique et ne constitue en rien le contre-pouvoir qui serait attendu dans un État démocratique, dans une démocratie. Donc, bien sûr, c'est pour ça aussi qu'on a sollicité Laureline Fontaine, puisque... Elle analyse justement les failles et les failles de nos institutions.
Je me tourne vers Laureline Fontaine afin de peut-être préciser aussi ce qu'est la Constitution. D'après les derniers textes que vous avez rédigés, en fait, la Constitution protège avant tout l'esprit de propriété.
Alors, question directe. Oui, peut-être d'abord, je vais revenir juste un instant sur ce qu'a dit Bernadette. C'est que, à proprement parler, je ne dirais pas justement que le Conseil est le garant de nos libertés. Il est censé être le garant de nos libertés. Il se présente comme tel. Mais effectivement, c'est, la réalité est complètement différente. Et globalement, on peut dire... Alors, on est en pleine actualité, en plus, hein, sur le Conseil constitutionnel, parce qu'on en parle en ce moment avec les nouvelles nominations. Alors, je ne sais pas quand cette émission sera diffusée, mais ce soir, justement, je fais une émission sur France Culture sur le Conseil constitutionnel. Est-il une instance trop politique ? C'est le titre de l'émission. Et à quoi je réponds, il n'est pas une instance trop politique, il est une annexe du pouvoir politique. Et ça se voit comment ? Bah, c'est qu'il protège, en effet... globalement les prérogatives du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir utilise la Constitution un peu comme il le souhaite, et de surcroît, plutôt majoritairement au service des intérêts économiques. Et les intérêts économiques, eh bien, paraissent faire de moins en moins bon ménage avec la question des droits et libertés individuelles et collectifs. Et on peut le repérer, alors, non seulement à la réalité des décisions qui sont rendues par le Conseil constitutionnel, par un certain nombre d'autres juges en France et à l'étranger, d'ailleurs. Mais on le repère aussi dans certains discours, et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, certains discours, par exemple, ceux des grands groupes financiers ou des holdings financières qui se mettent à expliquer que, finalement, un pays où il y a trop de droits à protéger, ben, c'est extrêmement néfaste pour les affaires, pour le business, et que finalement, on peut très très bien se contenter d'un système autoritaire qui ne ferait pas la part belle au droit au pluriel. Donc quand on commence à voir ce genre de discours, on s'interroge évidemment sur quelle est la philosophie aujourd'hui de nos gouvernements. Et alors c'est la raison pour laquelle aussi je suis très contente qu'on soit là tous les deux avec Serge Lama vendredi, parce que en effet il y a quand même, je pense, en dehors du fait que nous soyons juristes, de toute façon il y a une grande unanimité aujourd'hui entre les juristes, les sociologues, les philosophes, les observatoires de la vie politique et des associations de défense des droits et libertés. Il y a une forme d'unanimité sur un recul réel de la protection des droits et libertés. Et surtout aussi sur le fait que les instances qui sont censées en être les garants, eh bien, font complètement faillite. Si jamais elles avaient été un jour réellement protectrices de ces droits, mais aujourd'hui, on peut quasiment affirmer avec certitude que tel n'est pas leur principal objectif.
Alors, je reviens un peu sur cet esprit erroné de, que la Constitution défend nos droits. Qu'est-ce qui amène justement cette idée trompeuse dans beaucoup d'esprits de gens ?
Eh bien, c'est ce que les constitutions racontent, précisément. Et c'est ce qu'on raconte à propos des constitutions, hein, selon un discours qui est maintenant très bien éprouvé et qui existe depuis plus de 250 ans. Lorsqu'on lit une constitution, au moins le début, parce qu'en fait, en général, on lit surtout le début de la constitution, mais on lit surtout ce qui nous intéresse dans la constitution. Ça ne nous intéresse pas trop de savoir que la loi doit être votée selon telle et telle procédure, mais ça nous intéresse beaucoup de savoir si notre liberté est garantie, si l'égalité entre les hommes et femmes est garantie aussi, si on a la liberté d'expression, la liberté de manifestation. On en parlera sans doute tout à l'heure de cette question de la liberté de manifestation. Donc effectivement, ça, c'est un discours qui nous paraît extrêmement aimable. Donc on se dit, ah bah chouette, si les constitutions qui... sont dites être les normes fondamentales dans notre pays, eh bien, raconte ça, c'est que la Constitution est quelque chose de très intéressant pour nous. Et puis, en effet, donc, il y a des discours à propos de la Constitution qui disent, voilà, la Constitution, le fait d'écrire une Constitution, ça amène la liberté, ça amène la garantie des droits, hein, et on s'appuie sur une disposition de la Déclaration des droits de l'homme, qui date donc de 1789, et qui dit, l'article 16, qui dit que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, ni la garantie des droits assurée, alors c'est dans l'autre sens, mais n'a point de constitution. Donc on se dit, constitution égale garantie des droits. Parce que c'est écrit, en fait. Mais la problématique, c'est au-delà de l'écriture, au-delà du discours, quelle est la réalité ? Et là, donc, vous faites allusion à mon dernier livre, qui n'est plus La Constitution maltraitée, mais La Constitution au XXIe siècle, où je retrace l'histoire mondiale de l'écriture des constitutions, et où je recherche ce qui s'est vraiment fait dans le monde avec les constitutions. Et le bilan, il n'est pas du tout aussi intéressant qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire que, avec la Constitution, on peut plutôt associer à la Constitution, on peut plutôt associer des choses comme le colonialisme, l'impérialisme, et puis surtout le fait que ça sert à légitimer l'exercice du pouvoir. Parce qu'en fait, ça sert à ça aujourd'hui une Constitution, à légitimer l'exercice du pouvoir, et ça sert pas tant que ça à garantir les droits.
Alors, en parallèle de cette Constitution, hein, il y a donc la Ligue des droits de l'homme.
La mission de la Ligue des droits de l'homme, c'est de défendre les droits, les libertés, de lutter contre toutes les discriminations, de défendre tous les droits sociaux, les droits environnementaux. Et voilà. Mais la Ligue des droits de l'homme, elle se base par contre sur les textes de la Constitution et des traités internationaux qui sont ratifiés par la France.
Et donc, est-ce que vous vous retrouvez des fois justement un peu en contradiction par rapport à justement ce...
Ah ben, en contradiction, non. Ce que constate aujourd'hui la Ligue des droits de l'homme, c'est que... Alors, après, c'est une question compliquée. Hein. Ce que constate la Ligue des droits de l'homme, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment une offensive très nette et une démarche assumée et revendiquée par nos gouvernements de remise en question de l'état de droit, ce que nous, on considère comme l'état de droit, c'est-à-dire de ces droits qui sont inscrits dans la Constitution et qui devraient normalement nous garantir un certain nombre de libertés, notamment, par exemple, le droit de manifester, qui est aujourd'hui remis en question constamment par toutes sortes d'entraves. Et alors, cette remise en question, elle est ce qui est quand même inquiétante pour la Ligue, du point de vue de la Ligue des droits de l'homme, c'est qu'elle est assumée. On a quand même tout récemment un ministre, Retailleau, qui déclare l'état de droit n'est ni intangible ni sacré. Voilà. On a un ancien ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui décide de l'expulsion d'un ressortissant ouzbek, alors que cette expulsion, elle avait été, enfin, contre l'avis de hautes juridictions comme le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme, en disant simplement « j'ai décidé ». Donc, ceci est quand même très grave de notre point de vue. Hein. C'est vraiment une remise en question de la séparation des pouvoirs. Alors, ce n'est pas la seule. Effectivement, elles sont très fréquentes. Mais elle est symbolique, vraiment significative. Et puis, voilà, on se rappelle aussi de la loi immigration de 2023. Donc 40% des articles étaient considérés comme anticonstitutionnels et qui a été voté à l'Assemblée nationale. Donc, tout ça, c'est quand même très, très alarmant. Et puis, ce qui nous alarme aussi beaucoup à la Ligue des droits de l'homme, c'est le fait qu'on a traversé deux périodes d'état d'urgence, hein, d'état d'urgence 2015 suite aux attentats de 2015 et l'état d'urgence sanitaire. Et qui dit état d'urgence dit mesure d'exception. Or, ces mesures d'exception, on peut les concevoir limitées vraiment dans le temps. Déjà là, l'état d'urgence 2015, 2 ans d'état de mesures d'exception, c'était beaucoup. En réalité, alors, Laureline Fontaine me dira si mes propos ne sont pas exacts, parce que je parle un peu sous son contrôle. Ces mesures d'urgence, elles ont été intégrées dans le droit commun. Et on a vu depuis 2017 vraiment une avalanche de lois sécuritaires, intégrant notamment des mesures d'exception dans le droit commun, c'est-à-dire les mesures d'exception qui ne pouvaient être émises que par le judiciaire, ont été transférées au pouvoir administratif, donc au préfet notamment. Alors, par exemple, un exemple, les assignations à résidence, typiquement une mesure d'exception, Elles ont été utilisées notamment contre des militants écologistes au moment de la COP 21 hein, pour les empêcher de manifester.
Voilà, même dans le Diwa, on a eu il y a quelques années certains militants qui se sont retrouvés interdits de manifester déjà. C'était avant même les Gilets jaunes, il y avait déjà des tensions. Et je me tourne vers Antoine Pouillaud. Donc vous êtes trésorier des droits de l'homme, quelle est votre fonction à part d'être trésorier ?
La section qui a donc réouvert dans le Diwa depuis un an. On cherche surtout maintenant à étoffer le nombre d'adhérents. Et d'ailleurs, au début, on était une dizaine. Là, on commence à être pas loin d'être une trentaine d'adhérents, plus des sympathisants qui viennent nous rejoindre. Je crois que vraiment, les gens sont inquiets, très inquiets, en particulier de la montée du Rassemblement national, la montée dans le monde de ces ploutocraties qui sont des formes hideuses de retour d'une forme de fascisme, on peut dire ça carrément. Hein. Bon, bien sûr, Trump, mais en France aussi, finalement, on a le sentiment que, précisément, on risque de s'enfoncer à nouveau vers des jours sombres. Et donc, les gens sont inquiets, les gens rejoignent la LDH et puis ben, on essaye par le biais de ces conférences, par le biais des manifestations, d'associer le plus de monde possible.
Voilà. Alors, cette demande donc, de cette soirée qui émane de la Ligue des droits de l'homme correspond aussi à une demande de connaissance et de savoir un peu plus ce qu'est la Constitution à vos yeux. Est-ce que vous-même vous sentez-vous peut-être égaré dans ce document ?
Bah c'est pas toujours très simple de s'y retrouver. On y fait souvent référence sans véritablement savoir de quoi il en retourne. Enfin, moi, personnellement, un peu comme Bernadette, qui suis pas du tout juriste, l'état de droit, les principes constitutionnels, j'ai envie de dire l'indépendance des pouvoirs, tout ça, ça me parle, évidemment. Ce qui me parle aussi, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. On voit bien ce qui se passe. Toute personne doit être, quelle que soit son origine, ses compétences, ses diplômes et son milieu social, doit être jugé de la même façon. Et on voit bien qu'on n'est pas tous égaux, quoi. Les choses nous le montrent. C'est clair que on aurait besoin à l'échelle nationale, peut-être à l'échelle mondiale, à revenir sur les fondamentaux et à s'interroger sur ce qui se passe actuellement et toutes ces dérives autoritaires qui nous ramènent à des pages sombres de notre histoire.
Bernadette Castet, pareil, c'est vous aviez aussi un désir de connaître un peu plus cette Constitution pour organiser cette soirée, entre autres. Hein, je ne dis pas qu'on saura tout à la fin, mais est-ce que ça vous permettrait d'avoir quelques clés, peut-être aussi, de compréhension ?
Oui, bien sûr, connaître la Constitution, mais surtout arriver à évaluer toutes ces lois-là qui nous tombent dessus maintenant et comment y faire face. Parce que, par exemple, la loi séparatisme, qui est textuellement confortant les principes républicains. On voit bien que la loi séparatisme maintenant, en fait, conformément aux craintes de la LDH, hein, au moment où elle a été promulguée, cette loi, elle est complètement instrumentalisée, en réalité, pour faire taire la contestation politique, à partir de principes qui ne sont pas des principes républicains, mais qui sont des principes partisans. Et elle remet vraiment en cause alors quelque chose qui, en principe, est inscrit effectivement dans la Constitution, qui est la liberté d'association. Alors, bien sûr, la LDH, d'ailleurs, a été victime aussi, hein, déjà, de cette loi séparatisme, puisqu'elle a été menacée au moment des manifestations contre les bassines de Sainte-Soline d'être privée de subventions. Et puis cette loi séparatisme, eh bien, on voit qu'elle est en action en permanence, puisque on a des tentatives de dissolution, hein, d'associations qui se multiplient. La première, ça a été la dissolution de la coordination contre le racisme et l'islamophobie. La LDH s'y est opposée. Elle a porté un recours qui a été refusé, effectivement. Comprendre la Constitution, oui. Et puis, comment faire face à toutes ces lois, qui sont des lois liberticides, qui sont des lois qui vont à l'encontre des droits fondamentaux. Comment y répondre? Comment y faire face? Avec ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est que, quand même, on a l'exemple de l'Italie, pas très loin de chez nous, hein, où l'arrivée de Meloni d'extrême droite a quand même été préparée par toutes sortes de lois, notamment de restriction de la liberté de la presse et de restriction des libertés.
Laureline, à vous entendre, toutes ces présentations de la Constitution, elles semblent œuvrer dans un sens unique, c'est-à-dire un sens pour le pouvoir et peut-être de sécuriser le pouvoir en quelque sorte. Est-ce qu'il existe dans cette Constitution justement des outils pour un citoyen ou des citoyens pour pouvoir contrer ce sens?
Oui, alors en entendant tout ce qui vient de se dire, ça conforte ce que je pense depuis déjà un certain temps. Je crois qu'il y a il y aurait un intérêt à ce que le plus de personnes possible se réapproprient cette idée constitutionnelle, parce qu'effectivement, au prétexte que, mais bon, c'est une expression qui a l'air très négative comme ça, mais il ne faut pas l'entendre forcément du côté que négatif, mais au prétexte qu'on n'est pas juriste, on ne devrait pas avoir à connaître la Constitution ou comment ça fonctionne. Je ne crois pas du tout. C'est un texte qui est fondamental. Il faut quand même comprendre que la seule chose qui relie en commun tous les habitants d'un territoire, c'est le droit. C'est la seule chose qui leur est commune. Ils peuvent avoir une langue différente, ils peuvent avoir des pratiques différentes, des idées différentes, des genres différents, tout ce qu'on veut. Mais il y a une chose qu'ils ont en commun, c'est le droit. Et au plus haut, au sommet de cette pyramide des normes, comme on dit, il y a la Constitution. Et donc je pense qu'en fait, ce serait d'intérêt public que chacun ne se dise pas « Ah, mais moi, le droit, je n'y comprends rien, donc je ne peux rien en dire ». Je pense que ça devrait être l'inverse. Parce que l'effet de ça, l'effet de « Ah, mais moi, je n'y comprends rien, ce n'est pas mon métier », etc., eh ben, c'est que précisément, certains savent très bien s'en servir. Et qu'en attendant, donc, il bénéficie ce droit et ce droit constitutionnel de sa légitimité par le biais de son discours, comme je le disais tout à l'heure, et que donc le pouvoir s'appuie dessus pour travailler. Alors vous me posiez une question, est-ce qu'on peut l'utiliser de la bonne façon? Est-ce que c'est un outil? Je ne vais pas vous répondre tout de suite directement. Le titre que j'ai donné pour mon intervention vendredi a un petit côté un peu provocateur, qui est une réponse à « Sommes-nous encore en démocratie ?». Moi, je dis « Peut-on croire encore au droit ?» Précisément, à quoi nous sert le droit? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Je dirais, juste comme ça, je ne vais pas évidemment dérouler tout de suite tout ce que je vais raconter, mais je pourrais dire quand même une chose, c'est que... Je crois que cela fait, disons, 40-50 ans qu'on a déployé l'idée que le droit était un outil, une arme même, hein, l'idée d'arme du droit qui correspond aux usages militants du droit aux États-Unis, en Inde, par exemple, dans les années 70, et depuis la fin des années 70 et début 80, ici, aujourd'hui, en France. D'ailleurs, la chaîne YouTube du syndicat des avocats de France s'appelle « L'arme du droit ». Je ne suis pas certaine que cette idée soit la meilleure qu'on ait eue, parce que, précisément, elle place le droit au milieu d'une bataille où les uns et les autres vont s'affronter. Alors que le droit, ce n'est pas censé être une bataille. Le droit, c'est censé justement être ce lien qui nous unit tous. Et donc, moi, j'invite à une réflexion, j'allais dire, beaucoup plus en profondeur, que je comprends qu'on soit astreint dans, en fonction des circonstances à penser comment on va pouvoir gagner telle ou telle situation par le droit. Ça, je le comprends. Mais à pérenniser et à ne faire que ça, finalement, je crois qu'on se nuit à nous-mêmes et qu'il faudrait repenser cette question-là.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Cette organisation du 21 février, avec cette conférence « Sommes-nous encore en démocratie ?» émane en quelque sorte aussi d'une problématique vécue sur 10, c'est-à-dire la convocation par le tribunal de Valence de 3 personnes. On peut les citer, peut-être.
Oui, donc, alors, juste une chose. Oui. La conférence était prévue avant l'interpellation là, dont on va parler. Et à un moment donné, à la Ligue des droits de l'homme, on s'est dit, pour illustrer ces deux interventions, on ne pourrait pas profiter pour parler de ce qui se passe là pour trois personnes à 10 qui se retrouvent convoquées au tribunal correctionnel de Valence à la fin mars. Pour avoir, lors de l'épisode des manifestations contre la réforme des retraites sur le premier semestre 2023, donc ces trois personnes, dont moi-même, ont déclaré une manifestation, précisément le 6 avril, et il y a eu un petit écart par rapport à ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'on a organisé un pique-nique sur la voie chaussée et qu'on a entravé la circulation pendant cette durée et qu'au global, la circulation a été bloquée 15 minutes de plus que ce qui était prévu. Alors aujourd'hui, nous sommes tous les trois convoqués pour deux délits. Le premier, c'est entrave à la circulation et le deuxième, c'est pour avoir fait une déclaration en préfecture incomplète. Et voilà, et c'est tout à fait en lien avec ce dont on parle jusque maintenant, dans la mesure où moi, je fais du militantisme syndical depuis 20 ans, 25 ans. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, on peut parler véritablement d'une dérive autoritaire. Ces choses-là, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'en parlait même pas. Je précise quand même qu'il n'y a eu aucune dégradation, que les services de la ville de Die n'ont pas eu à intervenir pour nettoyer quoi que ce soit. On a organisé au total 14 manifestations sur le semestre en lien direct avec les appels intersyndicaux nationaux et que tout s'est absolument très bien passé sauf voilà pour la gendarmerie le 6 avril où ça serait presque rocambolesque si ça n'était pas aussi grave dans ce que ça représente parce que on est quand même passible de deux délits avec des peines assorties de peines de prison potentielles, assorties d'amendes conséquentes potentielles pour pas avoir fait grand chose.
On peut rappeler aussi, je crois, qu'il y a près d'un millier de personnes en France qui sont convoquées aussi dans la même situation
voilà,
que vous.
Voilà, ça rentre dans un contexte national. Il y a eu une tribune dans le Monde écrite par la secrétaire nationale de la CGT, Sophie Binet, qui, à l'époque, fin d'année 2023, s'inquiétait du fait qu'il y avait à peu près un millier de personnes comme moi et mes camarades qui se retrouvent inquiétées par la justice pour des petites choses équivalentes à celles qui se sont passées à Die.
Bernadette Castet, vous voulez intervenir ?
Oui, sur cette question de la liberté de manifester, c'est un droit fondamental, la liberté de manifester, d'exprimer son opinion entre deux élections présidentielles qui ont en plus une légitimité relative. Et moi, je pense que là, on a un véritable déploiement d'un arsenal pour dissuader les gens d'aller manifester. Alors cet arsenal, c'est quoi ? Eh bien, déjà, c'est un nombre incroyable d'arrêtés d'interdiction de manifester. Ça a été vrai pendant la période des manifestations contre la réforme des retraites. Ça a été encore impressionnant au moment où des Français voulaient manifester, des compatriotes voulaient manifester leur soutien au peuple palestinien, où les arrêtés ont été démultipliés, c'était quasiment impossible de manifester. Et puis, il y a quand même aussi une doctrine de maintien de l'ordre extrêmement violente en France. Pour rappel, pendant les manifestations des Gilets jaunes, on a quand même eu 6 mains arrachées, 30 personnes éborgnées, 150 blessures graves à la tête. Donc, c'est en France. Dans les pays européens, on n'a pas eu tant de mutilations. Donc, les forces de l'ordre utilisent des armes qui sont des armes de guerre, qui sont des armes mutilantes. La LDH et le Défenseur des droits ont multiplié les appels à supprimer ces armes mutilantes sans succès. Voilà, l'arsenal aussi, c'est la multiplication des arrestations préventives totalement arbitraires, avec des gardes à vue.
Laureline Fontaine, justement, il y a mis en avant ces droits d'expression, de réunion, de manifestation sans cesse attaqués. Que dit justement la Constitution sur cette liberté d'expression, même de manifester
Techniquement, elle ne dit pas grand-chose, en fait. C'est essentiellement à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que ces droits et libertés ont valeur constitutionnelle. Puisque notre constitution actuelle, celle de 1958, déclare son attachement à cette déclaration. Et donc dans la déclaration des droits de l'homme, effectivement, il est question de cela, mais sans aucune précision. La seule précision d'ailleurs, et elle est d'importance, c'est que tous ces droits et libertés s'exercent dans le cadre des lois. C'est-à-dire dans le cadre de ce que racontent les lois. Et donc, c'est extrêmement compliqué de dire, voilà, c'est nécessairement telle ou telle vision ou telle extension de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation, de la liberté de réunion qui s'impose. Je vais faire un petit parallèle, peut-être, parce qu'on va mieux le comprendre avec cet exemple-là. L'année dernière, on a inscrit dans la Constitution la liberté des femmes de recourir à l'avortement. C'est une liberté. Mais cette liberté, elle s'exerce, comme toutes les autres, dans le cadre des lois qui sont adoptées par le Parlement. Que dit la loi actuelle ? La loi actuelle dit que cette liberté s'exerce jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Qui empêche le législateur de réduire ce délai à 2 semaines ? A priori, rien. Parce que la Constitution se contente de parler de la liberté d'avorter. Alors, ce qu'on comprend bien ici avec cet exemple-là, donc on sait que si on réduisait ce délai à 2 mois, on serait pas loin de réduire à néant cette idée de liberté constitutionnelle d'avorter. Mais s'agissant de la liberté d'expression, qui est tout sauf une liberté générale, les restrictions à la liberté d'expression sont nombreuses. Donc, s'agissant de la liberté d'expression, de manifestation, de réunion, c'est la même chose. Ce sont les lois qui déterminent ce que ça veut dire et comment ça doit s'exercer. Et ça, c'est très important à comprendre parce que chacun a son idée de « Non, mais c'est dans la Constitution, donc j'y ai droit. » Non, vous n'y avez droit, en tout cas dans notre système, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne, notre système, vous n'y avez droit qu'à la hauteur de ce que le législateur a décidé qu'il irait dans tel ou tel sens. Je voulais juste ajouter une petite chose par rapport à ça, c'est que la dérive sécuritaire dont on parle, dérive sécuritaire autoritaire, alors on peut trouver quelques origines temporelles immédiates. Moi, il me semble que l'un des événements majeurs qui nous a fait passer dans un autre espace-temps par rapport à ça, espace-idée, c'est les attentats du 11 septembre, c'est le Patriot Act aux États-Unis, et en fait commence une longue série à partir de ce moment-là. Et en fait s'instille, parce que moi c'est ça que je voudrais dire, s'instille dans les esprits l'idée que nos droits et libertés méritent d'être restreints au nom de cet impératif sécuritaire, sanitaire, voire économique,
parce que c'est pareil, hein, la crise économique, elle a emporté toute l'autorisation du détricotage du droit social. Alors, et en France encore, on est, j'allais presque dire, bien loti par rapport à beaucoup de pays étrangers, mais ça reste justement problématique de pouvoir constater ça. Et que s'il existe des associations de défense des droits et libertés comme la Ligue des droits de l'homme, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens, en fait, sont prêts à mettre leurs droits et libertés, pour l'instant en tout cas, parce qu'ils ne se rendent peut-être pas encore compte de ce que ça peut donner à plus long terme, mais sont prêts à mettre leurs droits et libertés dans la balance s'il s'agit qu'on leur dise « mais en échange, vous allez être protégés ». Et ça, je crois que c'est un élément qu'il ne faut absolument pas négliger, parce que ça explique aussi que nos politiques puissent avoir une marge de manœuvre aussi grande.
Je reviens un peu sur aussi cette invitation faite à Serge Slama, hein, pour sa présence à cette soirée. Est-ce que Laureline Fontaine, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur Slama.
Si, on se connaît depuis 25 ans, je crois.
Et est-ce que il existe une vision ou une compréhension commune de cette constitution, ou est-ce qu'elle prête aussi à des interprétations?
Non, alors je pense qu'on ne fait pas du tout le même travail. Vraiment pas du tout, Serge et moi. Serge, il a vraiment un aspect plus les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que donc c'est vraiment un spécialiste de la question des droits et libertés et du contentieux des droits et libertés. Et il travaille là-dessus depuis que je le connais, hein, donc 25-30 ans. Il travaille sur cette question-là. Il est au fait constamment de ce que décident les juges en France au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Et il parle beaucoup dans l'espace public à ce propos. Et il va mettre régulièrement la main à la pâte sur certains dossiers, sur certains contentieux. Et donc, j'allais dire qu'il est au plus près. Et effectivement, il va un peu utiliser du mieux qu'il le pourra cette idée de droit comme d'instrument du droit comme source possible de la protection justement de nos droits. Moi, je fais pas du tout le même travail. Moi, j'interroge plutôt justement toute cette manière de faire et tous les résultats de ces manières de faire, faisant que du coup. On n'est plus, j'allais dire justement, il y a la question de l'interprétation commune du texte constitutionnel, à la limite, j'allais dire, ne se pose pas tellement, puisque c'est plutôt le fait que on est ou non pour ambition, enfin, pas pour ambition, mais pour finalité. Si vous voulez, je vais faire une incise, mais moi je trouve complètement incroyable que notre civilisation ait réussi à faire de la justice sociale quasiment une idée politique. C'est-à-dire, quand on y repense, c'est complètement absurde. Comme si la justice sociale n'allait pas d'elle-même, n'allait pas de soi. Et donc, je pense que effectivement, nous appartenons en ce sens à la même catégorie de personnes, et j'en connais beaucoup d'autres, qui font de la justice sociale une idée fondamentale. Mais après, comment nous envisageons que celle-ci soit réalisée? Là, je pense que nous pouvons avoir des divergences, mais c'est ça qui est intéressant, forcément.
Je reviens sur le propos émis par Bernadette sur ce droit du sol qui serait remis en question, hein, par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Oui. Justement, est-ce qu'il y a une possibilité de s'essuyer sur cette constitution du pouvoir public?
Oui, alors elles sont...
C'est pure démagogie ou alors c'est une réalité
Le fait que au sens littéral du terme, les pouvoirs publics s'assoient sur la Constitution, ça, je crois qu'il n'y a pas de difficulté. C'est sans cesse, même si on ne s'en aperçoit pas toujours. La question du droit du sol... là encore, mais oui, c'est que est-ce que ça fait partie de nos valeurs fondamentales telles qu'elles résulteraient du texte constitutionnel? Eh bien, il y a toujours des gens pour vous expliquer que non. C'est-à-dire que finalement, c'est une question d'interprétation. Et c'est ça aussi la problématique du texte constitutionnel. C'est qu'on puisse dire que c'est une question d'interprétation.
c'est un texte, donc ça s'interprète. Mais vous vous rendez compte que à avoir cette position-là, ça nous condamne à l'impuissance, en fait, vis-à-vis des changements. Et c'est un des effets de mon travail, de mettre en avant cela, c'est-à-dire que nous faisons confiance à un texte, malgré le fait que l'existence de ce texte et sa capacité à être interprété nous condamne à l'impuissance vis-à-vis de lui.
Moi, j'ai envie de compléter ce que dit Laureline. Pour moi, ce débat sur que ce soit le droit au sol, l'identité nationale, il tombe... Ils nous font ce petit couplet régulièrement de se dire la problématique quand on interroge les gens normaux, 90% des Français, la problématique numéro une, c'est pas la sécurité, c'est pas le problème du droit au sol, c'est pas l'immigration. Le problème numéro un des Français, c'est le logement. Et puis c'est comment je finis le mois. Eh bien, au lieu de s'attaquer à ces vraies problématiques politiques, Et d'avancer dans ce sens-là, on nous ressort des vieilles idées qui sentent mauvais en plus, pour diviser, pour passer des heures. Voilà. Une fois, ça a été le foulard. Sous Hollande, on a reparlé d'identité nationale. Enfin, voilà, c'est le monstre du Loch Ness. Et, et pour moi, c'est un pare-feu pour éviter de parler des vrais problèmes.
Ce sont toujours les mêmes populations qui sont ciblées, là, quand même. C'est la tactique du bouc émissaire.
La Ligue des droits de l'homme, par sa présence sur le Crétois d'Iwa, se décline sur quel aspect? Est-ce que vous vous retrouvez régulièrement? Est-ce qu'il y a des ouvertures vers le public ou des réceptions aussi du public dans votre organisation?
Bien oui, on se voit. Alors on est un petit groupe d'une trentaine de personnes, on est entre 10 et 20 à chaque fois qu'on se réunit une fois par mois. Et l'idée, c'est évidemment de pousser un peu les portes et d'intervenir sur le débat public à travers ce qu'on fait par exemple vendredi, mais il y aura d'autres rendez-vous proposés. On a fait il y a quelques mois une conférence débat sur la Palestine, qui a été intéressante en soi, puisqu'elle a débouché sur une envie des participants de se dire, est-ce que nous, localement, qu'est-ce qu'on peut faire? On soutient ce peuple opprimé. Et on a mis en place, l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi d'autres structures politiques qui nous ont rejoints. On y a mis en place un rendez-vous hebdomadaire le jeudi, devant la cité scolaire à 17h, en soutien au peuple palestinien Et il y a eu donc dans ce groupe aussi des gens qui se sont proposés à créer et animer un groupe de boycott des engagements sanctions, donc contre les produits vendus dans les grandes surfaces fabriqués par Israël. Voilà, BDS.
Ça va être la dernière question. C'est par rapport. Il existe quand même un texte qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme. Je me trompe ou pas?
Bien sûr.
Oui, c'est ça. Cette déclaration, effectivement, est-ce qu'elle est en quelque sorte le pendant de cette constitution qui s'est établie il y a plus de deux siècles?
C'est ce que je le disais tout à l'heure, Yves. La Déclaration des droits de l'homme, donc oui, c'est ce texte qui date de 1789 et il est rattaché à la Constitution aujourd'hui, par le texte de 1958. Donc il fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, mais avec la limite que je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun droit, sauf d'ailleurs, je le signale quand même, pour terminer là-dessus, sauf le droit de propriété, hein, qui est un droit qui est sacré, mais tous les autres droits, pour l'essentiel, s'exercent dans le cadre des lois qui sont adoptées à ce sujet.
Pour ce vendredi 21 février, ça débutera à 18h. Il n'y a pas lieu de réserver. Il y aura suffisamment de possibilités d'accueil.
On l'espère. La salle communautaire, c'est à peu près une petite centaine de personnes en poussant un peu les murs. N'arrivez pas trop tard. Vous aurez les meilleures places. Et voilà.
Vous avez aussi une page Internet pour pouvoir connaître vos activités?
La Ligue des droits de l'homme a une page, un site. Hein, il suffit de taper Ligue des droits de l'homme et un site donc avec différentes rubriques, hein, des différentes actions, des tribunes, des publications de la Ligue des droits de l'homme. C'est un site qui est extrêmement riche.
Il est national, hein,
ce site. Il est national.
Mais voilà. Est-ce qu'il y a des onglets qui sont réservés à la Drôme ou... Non,
il y a... Si, il y a un onglet réservé aux sections régionales. Donc, lorsqu'il y a, par exemple, une conférence, une action menée, ça apparaît effectivement au niveau régional.
Et pour vous, Laureline, donc, à quelle heure sur France Culture ?
18h20, la question du soir. 18h20, 19h ce soir chez Quentin Lafay.
Voilà, et donc j'indique aux auditeurs qu'ils n'ont qu'une demi-heure pour pouvoir souffler avant de reprendre une écoute. Oui.
Juste pour finir, concernant le comité de soutien des trois de Die, hein, l'affaire des trois personnes qui se retrouvent au tribunal, on a différentes activités à proposer donc, au Diwa. On se retrouve le mercredi matin et le samedi matin sur le marché pour faire signer une pétition. On a mis en place une cagnotte pour... financer un peu dans un premier temps les frais d'avocat. Et puis, on a prévu une soirée de soutien festive le 7 mars à la salle polyvalente. Donc tout le monde est invité, ça va être un bon moment à passer. Et puis, pour les plus courageux, s'ils veulent venir nous soutenir pendant le procès, c'est le 20 mars à 13h30 à Valence. Merci.
Je vous remercie tous quatre, donc Bernadette Casté, Antoine Pouillaude, Laureline Fontaine et Nicolas Fèvre-Darcier d'être venus sur Air du Bois pour nous parler donc de cette conférence débat du 21 février à la salle communautaire de l'ESCDD à 18h. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.